Vous écoutez, on lit pour vous.
Contrer l'Alzheimer sans attendre les médicaments. Un texte de Raphaël Derome, paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science. Quelles avenues existent pour réduire le risque de démence et mieux soigner l'Alzheimer? Même si on manque cruellement de médicaments efficaces, il y a déjà beaucoup à faire pour ralentir la progression de la maladie et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Après tout, comme l'écrivait un patient dans le World Alzheimer Report 2022, avant le remède, il y a les soins. Ne l'oubliez jamais. Il y a un changement de culture qui s'opère actuellement, constate le docteur Serge Gauthier. Neurologue retraité de l'Université McGill, il prône une approche plus structurée de la part des médecins. Face à une démence légère, on va se faire un plan de traitement, comme on le fait pour le diabète ou l'arthrite chronique. Un esprit sain dans un corps sain. Si les traitements pharmacologiques sont encore peu nombreux, la recherche en prévention n'a pas chômé ces dernières années. Tout d'abord, l'Alzheimer est très peu héréditaire. Ensuite, les études épidémiologiques ont mis au jour 12 facteurs de risque contrôlables pour protéger le cerveau. Si on agissait sur tous les facteurs, on pourrait éviter jusqu'à 40 % des cas d'Alzheimer, résumait une synthèse publiée dans The Lancet en 2020. De manière très générale, la santé du cerveau dépend aussi de celle du corps, indique Frédéric Calon, chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec Université Laval. Faire de l'exercice, contrôler son diabète et son hypertension, prévenir les blessures à la tête, ainsi qu'éviter de fumer ou de boire plus de 21 consommations d'alcool par semaine, cela peut nettement réduire les risques de dommages neurologiques. Comme la maladie est très complexe et multifactorielle, actuellement, on ne peut pas la prévenir complètement. Les gens nous disent « Mon père était très actif, super en forme, mais il a eu la maladie d'Alzheimer quand même. » Oui, c'est possible, mais peut-être aussi qu'il a repoussé son déclenchement, avance Sylvie Belleville, neuropsychologue à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives du vieillissement et plasticité cérébrale. Elle préfère d'ailleurs parler de réduction du risque plutôt que de prévention. En plus de soutenir les saines habitudes de vie, les gouvernements peuvent aussi lutter contre la pollution de l'air. Elle endommage notamment le système vasculaire, ce qui aurait des effets sur la cognition. Notre cerveau a besoin d'une bonne irrigation sanguine pour bien fonctionner, rappelle Frédéric Calon. D'un point de vue individuel, on peut aussi renforcer sa réserve cognitive, c'est-à-dire la capacité de résilience du cerveau face aux dommages. On sait depuis longtemps qu'entre deux personnes présentant des niveaux de bêta-amyloïde similaires, celle ayant atteint un niveau d'éducation plus élevé sera mieux protégée contre la maladie, comme si son cerveau arrivait à pallier les pertes neuronales. Ça veut dire que la pathologie est dans le cerveau, mais qu'il la combat, illustre Sylvie Belleville. On peut augmenter sa réserve en conservant une vie sociale active. Fait étonnant, le cas échéant, le port de prothèses auditives aurait aussi un effet protecteur. Le lien entre perte auditive et déclin cognitif n'est pas encore bien compris, mais on soupçonne trois mécanismes potentiels. D'abord, la chute de la stimulation auditive engendrerait une baisse de la stimulation du cerveau. Ensuite, le fait de devoir travailler plus fort pour bien comprendre les paroles pourrait avoir comme effet de surcharger le cerveau aux dépens de la mémoire. Enfin, l'isolement social, souvent engendré par la perte auditive, a sans doute des effets délétères. Renforcer sa mémoire pour vrai. Tout au long de la vie, le cerveau conserve une certaine neuroplasticité et peut se transformer. Les branchements entre les neurones évoluent au gré des apprentissages. C'est sur ce principe que se base MEMO, un programme québécois d'éducation de 8 séances destiné aux personnes ayant un trouble cognitif léger. On y enseigne des stratégies concrètes pour améliorer sa mémoire. Se rappeler les noms, les choses à faire, les articles à prendre à l'épicerie, etc. Créé par Sylvie Belleville et ses collègues, il est dispensé par certains psychologues formés ainsi que par l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. On donne des outils pour que la personne soit plus performante au quotidien, explique Sylvie Belleville. Et ça marche. L'évaluation du programme, publiée en 2018 dans le Journal of the American Geriatric Society, montre que les participants et participantes utilisaient bel et bien les stratégies proposées et amélioraient leur score à des tests de mémoire, même 6 mois plus tard. L'équipe a aussi montré par imagerie que le cerveau de ses volontaires s'activait davantage que dans les groupes témoins. Fait intéressant. 5 ans après, les gens ayant pris part au programme montraient moins de déclin cognitif. Ces résultats ont été soumis pour publication, mais un autre essai, mené cette fois aux États-Unis, a montré le même genre de bénéfices sur 10 ans. Sylvie Belleville croit que les interventions cognitives engendrent un cercle vertueux. Quand on se sent plus compétent, on est moins stressé, on a moins honte, on s'isole moins. Autrement dit, les interventions cognitives protégeraient aussi la santé du cerveau de manière indirecte, en favorisant les interactions sociales. Vous écoutez « Contrer l'Alzheimer sans attendre les médicaments », un texte de Raphaël de Rome, paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science. Éduquer les malades et leurs proches. À mesure qu'on découvre les facteurs de risque et de protection, on constate que, même une fois le diagnostic posé, les gens peuvent encore agir pour favoriser la santé de leur cerveau et ralentir la progression de la maladie. On le sait très bien, pendant la COVID, les gens atteints d'un petit début d'Alzheimer qui n'ont vu personne et qui n'ont rien fait ont décliné de façon catastrophique. Selon de grandes études, une large part du déclin chez des personnes âgées s'expliquait par l'isolement et le manque d'activité physique. Ces facteurs sont importants à tous les stades, avant et après le diagnostic, souligne Sylvie Belleville. C'est pour informer les malades et leurs proches, ainsi que pour les aider à naviguer à travers le système de santé et les différents stades de la maladie, que l'Université McGill a monté le programme de formation sur les troubles neurocognitifs. La fondatrice et ambassadrice du programme, Claire Webster, a été aidante pour sa mère, maintenant décédée. Au moment du diagnostic de démence, elle avait reçu pour tout conseil « Bonne chance, madame, il n'y a rien à faire. » Refusant que d'autres se sentent aussi démunis par la suite, Claire Webster a interpellé l'université. Désormais, l'institution offre des conférences, des webinaires et un guide téléchargeable de 200 pages traduit en 12 langues pour aider les personnes atteintes à être heureuses, en sécurité et bien encadrées. Il est notamment important que les personnes atteintes continuent à s'engager dans leurs activités favorites, pour autant que celles-ci soient adaptées à leurs capacités. Toutefois, il n'est pas facile de s'improviser ergothérapeute pour grand-papa. Un livret et des capsules vidéo prodiguent donc des conseils en ce sens. Même si une personne a des problèmes de mémoire importants, on peut la stimuler sur le plan cognitif et avec de l'activité physique adaptée à ses capacités. On peut s'assurer qu'elle dort bien, qu'elle reste en contact avec ses proches. Et si elle ne peut plus parler, s'assurer qu'elle est stimulée non verbalement par le toucher ou les odeurs, propose Sylvie Belleville. La technologie pour favoriser l'autonomie. La maladie progressant. La question du lieu de résidence se pose avec de plus en plus d'acuité. La personne est-elle en sécurité? Peut-elle encore habiter seule? La réponse n'est pas toujours évidente pour les proches ou le personnel soignant. En effet, les malades ne se souviennent généralement pas s'ils ont mangé le midi même, bien dormi ou pris une douche. Pour remédier à ce problème, le laboratoire Domus, à l'Université de Sherbrooke, crée des systèmes de télésurveillance du domicile. Mais pas question d'installer des micros ou des caméras. À l'aide de capteurs non intrusifs, le système détecte l'ouverture des portes, le mouvement dans les pièces, l'ouverture d'un robinet ou encore l'utilisation de la cuisinière ou du four à micro-ondes. Installé dans un canapé ou sous un matelas, des capteurs de pression indiquent si quelqu'un y est assis ou couché. Grâce à une télésurveillance peu invasive, on peut inférer un certain nombre de résultats, dit Hubert Kenfack-Mankam, professeur d'informatique et co-directeur du laboratoire Domus. Les proches ou le personnel soignant peuvent alors mieux comprendre les habitudes de vie et déterminer s'il y a eu changement dans l'alimentation ou le sommeil, illustre son collègue Charles Gouin-Valeran, également co-directeur du laboratoire. Le système détecte aussi les situations anormales. Si la personne se trouve dans la salle de bain depuis 2 heures, peut-être est-elle tombée. L'objectif n'est pas de remplacer les interventions humaines, mais d'accompagner les soins à domicile. Ça permet aux cliniciens de mieux connaître le profil de leurs patients et de prendre des décisions selon les besoins de ces derniers, dit Charles Gouin-Valeran. On estime le coût des équipements à environ 2 000 $ par appartement, plus les frais d'installation et de soutien technique. Pour offrir ces technologies à la population, des chercheurs du Domus ont fondé la coopérative Ixia, encore en démarrage. Autre possibilité, ces systèmes pourraient être prêtés par les CLSC, comme c'est déjà le cas avec les lits d'hôpital ou les sièges pour la douche. Il y a en effet des économies à faire si on retarde l'entrée en institution. Sur la 50aine de personnes ayant participé aux recherches du Domus, il y a eu plusieurs petites victoires. Des cas où on a pu prolonger la vie autonome à domicile de plusieurs mois. Par exemple, en confirmant que la personne se préparait régulièrement à manger ou ne faisait pas d'errance nocturne, indique Charles Gouin-Valeran. Le laboratoire développe aussi l'assistant Cook, qui aide les gens à cuisiner de manière sécuritaire. Une application tablette les guide dans la préparation du repas et un système coupe le courant si un élément chauffant reste allumé trop longtemps. Aujourd'hui, beaucoup d'aînés possèdent déjà une tablette ou un téléphone intelligent, ce qui facilite l'adoption du système. Les 12 facteurs de risque contrôlables pour les troubles neurocognitifs. Perte auditive, faible niveau d'éducation, inférieur au niveau primaire et secondaire, tabagisme, dépression, isolement social, blessure à la tête, hypertension, sédentarité, pollution de l'air, consommation élevée d'alcool, obésité, diabète. La qualité du sommeil et la nutrition suscitent aussi un fort intérêt en recherche, mais les liens ne sont pas encore assez clairs pour que des recommandations officielles puissent être faites à ce sujet. C'était « Contrer l'Alzheimer sans attendre les médicaments », un texte de Raphaël de Rome paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science.
Une dernière coupe pour la doyenne de la rue Wellington. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 14 juin 2024 dans Le Devoir. C'est plus qu'une page d'histoire qui se tourne, c'est une partie de l'âme d'un quartier qui s'envole. Après 57 ans de travail au même endroit, Lise Bruneau a choisi de prendre une retraite bien méritée et de fermer son populaire salon de coiffure de la rue Wellington. Verdun y perd une coiffeuse de talent, mais aussi le témoin d'une époque et, peut-être, la psychologue la moins chère en ville. Coincée entre un restaurant asiatique et l'entrée d'un triplex, l'entrée du salon Gaétane, nommée en l'honneur de la précédente propriétaire, ne paie pas de mine. Pourtant, à l'intérieur, malgré la sobriété du petit local, c'est la chaleur des lieux qui saisit les visiteurs. Non pas en raison de la canicule qui sévit à l'extérieur, mais bien du grand sourire de la propriétaire qui nous attend au comptoir. Toujours pimpante à 77 ans, Lise Bruneau se prépare à la journée fatidique du 22 juin 2024, lorsqu'elle posera ses ciseaux pour une dernière fois. Au moment du passage du devoir, une cliente, les yeux mouillés, la remercie et lui souhaite la meilleure des chances pour cette transition à la retraite. La jeune femme ne sera pas la seule. Ils sont déjà des dizaines à avoir noirci les pages d'un cahier laissé sur le comptoir par une autre fidèle cliente. Une sorte de livre d'or que pourra feuilleter Madame Bruneau lorsqu'elle sera nostalgique des milliers d'heures à coiffer petits et grands, hommes et femmes, dans son salon de la rue Wellington. Je suis restée aussi longtemps parce que j'étais heureuse ici. J'ai eu des moments difficiles, mais je suis toujours passée au travers. Maintenant, faut que je pense à moi. Ça va être dur, confie la future retraitée de sa voix douce. Un quartier transformé. En 1967, Lise Bruneau, âgée de 20 ans et fraîchement débarquée de sa campagne d'Huntington, est embauchée dans ce qui était alors le salon Mademoiselle de Paris. Elle ne se doutait pas qu'elle allait un jour posséder l'endroit et surtout qu'elle y coifferait 5 générations. À l'époque, Verdun était encore une cité indépendante de Montréal, une ville sèche, où la vente d'alcool était interdite. La rue Wellington n'était pas encore la plus cool du monde et le métro n'était encore qu'un rêve lointain. Lise Bruneau garde le souvenir d'une rue Wellington parsemée de grands magasins et grouillante d'activités. « Quand j'ai commencé, la rue était pleine de monde. C'était tellement beau de voir ça. Les gens s'arrêtaient et nous parlaient. Tout le monde se connaissait. Les gens s'assoyaient et jasaient sur les balcons. » Les commerces familiaux étaient alors la norme et non l'exception. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de magasins, seulement des cafés et des restos. Il ne reste plus grand monde comme moi. Je suis une des vieilles de la rue Wellington. Il est temps que je m'en aille pour faire de la place aux jeunes, dit-elle avec humour. Les survivants du XXe siècle se font de plus en plus rares sur l'avenue commerciale. La cordonnerie Argentino a fermé ses portes récemment après presque un siècle d'existence, tout comme le coin du jouet, qui datait de 1968. Le titre de doyen revient à M.H. Grover, un tailleur pour hommes qui fêtera l'an prochain son 100e anniversaire. Le commerce, qui occupe le même emplacement depuis 1945, est toujours entre les mains de la famille Grover. Même chose pour la Marquise Express, restaurant familial converti en traiteur qui est en activité depuis 1955. Le profil de la rue a changé. Il y a moins de « mom and pop shops », reconnaît Patrick Mainville, directeur général de la Société de développement commercial SDC Wellington. En référence à ces commerces indépendants possédés et exploités en famille. L'ouverture du Carrefour en Grignon, vaste centre commercial en 1986, a rendu la vie difficile à bien des petits commerces de proximité de Verdun, qui ont parfois été remplacés par des enseignes internationales. Et les initiatives de piétonnisation qui ont cours dans la Wellington depuis plusieurs années favorisent surtout certains types de commerces comme les restaurants, les bars, explique Patrick Mainville. C'est triste d'apprendre que Madame Bruneau s'en va. Ça fait si longtemps qu'elle fait partie du décor, mais c'est quand même une belle nouvelle de savoir qu'elle a pu gagner sa vie aussi longtemps au même endroit, soutient ce Verdunois de 3e génération. salon thérapeutique. Lise Bruno a acheté son salon de son ancienne patronne à la fin des années 1980. Elle aura traversé les styles capillaires, mais aussi les petits et les grands événements de l'histoire du quartier. Le déclin, puis le renouveau de la rue Wellington, l'embourgeoisement de Verdun, la pandémie de COVID-19. Mais aussi ses propres tragédies, comme la mort subite de son mari, qu'elle avait évidemment rencontré en travaillant. Grâce au salon, j'ai pu passer au travers. C'est grâce à eux autres, ses clientes, que je suis là. C'est ce qui m'a sauvé. Tout ce qu'on donne nous est remis plus tard. En 57 ans de coiffure, Lise Bruno en a entendu des confidences. Son salon est devenu au fil du temps le repère de la faune locale. Les clientes plus âgées aiment venir ici et jaser parce qu'elles sont seules. Moi, je peux leur parler plus longtemps parce que je suis la patronne et j'ai le temps d'écouter. Mais les jeunes coiffeuses n'ont plus le temps d'écouter. Elles louent leur chaise et il faut qu'elles la paient. Des salons comme moi, il n'y en a plus. Au cours des prochaines semaines, elle devra répondre à une nouvelle question. Comment continuer à vivre après avoir arrêté de faire ce qu'on a aimé toute notre vie? Ce qui va me manquer le plus, c'est la chaleur humaine, dit-elle. Écouter les autres, ça fait réaliser que nos problèmes sont souvent moins durs qu'on le croit. J'ai vécu des deuils avec des clientes qui ont perdu leur mari, leur enfant, qui ont vécu la maladie. Des clientes qui m'annonçaient qu'elles avaient le cancer, j'en ai eu beaucoup. C'est donc vers ces habitués que se dirigent ces pensées tandis que l'heure de la retraite approche. J'ai travaillé tellement fort pour garder mes clients, j'ai donné tout ce que je pouvais. Souvent, il y en avait qui n'avaient pas de sous, j'ai fait beaucoup crédit. J'aimerais qu'ils soient gâtés comme je les ai gâtés. C'était une dernière coupe pour la doyenne de la rue Wellington, un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 14 juin 2024 dans Le Devoir.
La petite histoire de l'épluchette de blé d'Inde, un texte commandité, paru le 27 avril 2024 dans la presse. Les épis sont dépouillés de leurs habits dans un concert de schlack et de rire. L'eau bout dans la marmite et les esprits s'échauffent. Tout le monde a le cœur à la fête en retrouvant d'anciens réflexes enracinés dans leur mémoire, tels des vestiges d'une époque oubliée. Au Québec, la traditionnelle épluchette de blé d'Inde fait partie intégrante de l'été. Mais depuis combien de temps, au juste? Quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, le savoir-faire autochtone. Depuis bien avant la traversée de l'Atlantique par les premiers Européens, le maïs n'avait déjà plus aucun secret pour les Autochtones. Ce sont eux qui sont à l'origine du système agricole des Trois Sœurs, une ingénieuse technique combinant maïs, haricots grimpants et courges. Les haricots s'accrochent au maïs lorsqu'ils gagnent en hauteur, tandis que les grandes feuilles des courges recouvrent le sol et empêchent les mauvaises herbes de pousser. Ces trois aliments mijoteront plus tard dans un bouillon pour obtenir la sagamité, une soupe traditionnelle. 1492, blé d'Amérique ou d'Inde. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb et son équipage accostent sur une île des Bahamas. La croyance populaire veut que, convaincu d'avoir découvert la route des Indes, le grand explorateur est appelé blé d'Inde, les plants indigènes cultivés localement. Il est plutôt curieux que cette expression ne soit aujourd'hui utilisée qu'en français, étant donné que Christophe Colomb était originaire d'Italie et qu'il voyageait au nom de l'Espagne. Cette plante se nomme maïs en italien et maïs en espagnol, tout simplement. Du XVIe au XVIIIe siècle, la Nouvelle-France. Il est probable que la tradition de l'épluchette, sous forme de festivité, remonte à l'époque de la colonisation. Différents récits de voyageurs racontent qu'au temps des récoltes, les épis de maïs étaient cueillis, dénudés et préparés en vue de leur entreposage pour l'hiver. Au XVIIIe siècle, le botaniste suédois Per Kalm mentionne d'ailleurs que le maïs est cultivé sur toute la rive nord du Saint-Laurent, entre Québec et Trois-Rivières, signe que cette céréale est bien ancrée dans les habitudes alimentaires de la population sur place. 1832, le Hosking Bee aux États-Unis. La tradition traverse les frontières et voyage même au-delà des Grands Lacs. Dans l'ouvrage « Farm Life in Central Ohio », le juge américain Martin Walker se remémore la coutume des « Hosking Bees » de sa jeunesse au début du 19e siècle. La description qu'il en fait ressemble grandement à celle des épluchettes de la belle province. 1866, première épluchette documentée au Québec. C'est dans la Gazette des campagnes, un journal agricole publié à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qu'est publiée pour la première fois une description détaillée de la coutume du « dépouillement ou égrenage des épis » en tant que fête de famille. Cette corvée de groupe se conclut en partageant un repas avec d'autres et en dansant toute la soirée en guise de remerciement aux personnes présentes. 1898, l'amour est dans l'épluchette. Dans son livre « Fêtes et corvées », l'écrivain Léon Pamphile Lemay décrit une amusante tradition voulant qu'un épi rouge soit dissimulé parmi ceux de couleur jaune. Quiconque trouve ce blé d'Inde d'amour sera nommé roi ou reine de l'épluchette et sera libre d'embrasser la personne de son choix. De nombreuses variations de cette coutume se sont développées au fil du temps. Par exemple, celle voulant qu'on gagne le privilège de danser avec le fils ou la fille de la maisonnée, ou encore qu'on cache deux épis, un rouge et un bleu, pour confier le jumelage au destin. Le maïs est-il une céréale ou un légume? Le maïs est cultivé comme une céréale. Une fois séché, ses grains permettent d'obtenir une farine riche en glucides. Les grains de maïs peuvent aussi être récoltés avant maturité, pendant qu'ils sont encore tendres et sucrés. L'aliment est alors considéré comme un légume. Néanmoins, d'un point de vue strictement botanique, le maïs est un fruit. Il se développe à partir d'une fleur et contient des graines, un peu comme la tomate. C'était la petite histoire de l'épluchette de blé d'Inde, un texte commandité paru le 27 avril 2024 dans la presse.